C'est la suite de la semaine du retour du roi dans Traditionnel. Je suis de nouveau aux commandes de cette émission pour la preview Serie A, 29e journée entre l'Inter et le Napoli. Une grosse affiche qui aurait pu nous faire rêver en début de saison, dans le sens où on a le champion en titre face à l'actuel leader de Serie A, sauf que le champion en titre est actuellement à une petite bagatelle de 31 points du leader actuel. Ça fait beaucoup. Et pour en discuter, j'ai la fine brochette de consultants Serie A de cette émission. Commencer par Alban, supporter interiste. Comment vas-tu, Alban ?
Eh ben, ça va toujours, toujours aussi bien que depuis la semaine dernière, l'épisode qu'on avait enregistré avec Alan, où il avait souligné un fait que je n'avais même pas remarqué, mais je n'ai toujours pas connu la défaite en 2024, donc
c'est beau.
Tout va pour le mieux pour l'instant, oui, puisqu'il y a au moment où il y a un petit match qui va arriver dans quelques minutes. Et donc, ce sera la surprise à voir si je vais avoir droit à mon cadeau habituel avec l'Inter ou s'il va y avoir une petite nouveauté en 2024.
Oui, voilà, Alban dit ça parce qu'on enregistre avant le match retour entre l'Inter et l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Donc, bien sûr que dans notre analyse du match, nous ne parlerons pas du match de ce match de Ligue des Champions. Vous l'aurez en l'écoutant cet épisode vendredi, mais nous n'aurons pas de connaissance de ce match-là. Et puis avec nous aussi, on a Tony de l'équipe TA pour parler de ce match endiablé de Serie A. Comment vas-tu ?
Eh ben, ça va très bien, Quentin, ça va très bien. On est là entre nous, là, pas d'invité, juste entre nous pour parler de ce match qui va être très intéressant à analyser.
Voilà, la famille, entre nous, on a besoin de personne pour ça, parce que on a une équipe suffisante et très, très, très compétente pour parler Serie A aujourd'hui. On va s'attarder pour commencer à parler un petit peu des formes des deux équipes. Si on s'attarde à l'Inter, en ce moment, c'est très fort, bien sûr. L'Inter, c'est 5 victoires en 5 matchs de Serie A sur les 5 dernières rencontres. Tu l'as dit, Alban, l'Inter n'a pas connu la défaite encore en 2024. Nous sommes le 13 mars au moment où nous enregistrons ce podcast. Les 5 dernières victoires, il y a 3-4-0, la Salernitana, Lecce et l'Atalanta. Une victoire face au Genoa, une victoire face à Bologne, notamment dans un match très serré, mais victorieux au final pour l'Inter. Et du côté du Napoli, ça va légèrement mieux depuis le renvoi de Walter Mazzarri et l'arrivée de Francesco Calzona à la tête de cette équipe. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 matchs sans défaite pour le Napoli. 3 nuls et 2 victoires. Les 2 victoires, il y a un carton plein face à Sassuolo, 6-1. Et une grosse victoire face à la Juve il y a 2 semaines de ça, 2-1. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la forme de ces deux équipes qui ont, bien sûr, Alban, des trajectoires très opposées depuis le début de saison ?
Ce qu'il faut retenir, tout simplement, déjà du côté de l'Inter, c'est que tout fonctionne bien dans le résultat, même si il y a parfois, comme tu l'as souligné, avec les 3 victoires 4-0, il y a très souvent la manière, l'explosivité, la réussite en nombre, que ce soit sur le plan offensif et puis même défensif, parce que on est la meilleure défense de Serie A et de loin, avec seulement 13 buts encaissés. Mais voilà, même quand on se retrouve dans des matchs un peu plus compliqués, je pense par exemple à la seconde période face au Genoa, où on a un peu plus été en difficulté, même voilà, face à Bologne, on avait une très belle équipe en face, donc on n'a pas, en toute logique, bien sûr, on n'a pas surdominé la rencontre, mais le résultat est toujours là, la clé, la confiance est bien évidemment au top au moment où on enregistre le podcast, et puis je pense que même en cas de contre-performance en Ligue des Champions ou en cas de qualification, ça va pas changer grand-chose à l'approche du match pour les interistes qui ont vraiment cet objectif du Scudetto en tête et qui veulent, je pense, le terminer au plus vite possible. Mmh. Et puis Naples, ça va mieux avec Calzone qui qui donne un peu plus d'allant offensif à cette équipe. Le carton plein face à Sassuolo en est la preuve. Je trouve que il faut pas trop tenir compte juste d'un point de vue comptable la dernière rencontre face au Torino, parce que le Torino était pas très ouvert, on va dire, à l'esprit du jeu. Voilà, je trouve que c'était pas digne d'une équipe qui joue vraiment le ventre mou, le taureau, alors que les Napolitains avaient un peu plus, selon moi, de volonté de jeu, de volonté offensive. Donc c'est plutôt positif. On a un Kvaratskhelia notamment qui, voilà, est vraiment sur une pente un peu plus ascendante. Donc ça va un petit peu mieux, mais à voir si ce sera suffisant ce week-end pour faire tomber le leader.
Tony, toi, t'as pensé sur la forme des deux équipes? Est-ce que on l'a vu hein, depuis l'arrivée de Calzona, un Napoli qui va un petit peu mieux et ce malgré l'élimination en Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine face au FC Barcelone. Mais voilà, de l'autre côté, tu as l'Inter qui est sur une forme resplendissante et qui risque très bien de marquer le pas de sa domination ce week-end face au Napoli.
Oui, alors pour pas non plus répéter tout ce qu'a dit Alban, parce que c'était très très bien résumé dans les deux parties, ce qui aussi fait du bien aussi au Napoli, parce qu'il y avait aussi un petit moment, on va dire, d'absence d'Osimhen avec cette canne, et le temps évidemment qu'il revienne, et le fait qu'il se remette dans cette équipe, parce que c'est quand même un joueur qui a un fort caractère, et qui a aussi l'âme aussi d'amener une équipe vers l'avant. Donc ça aussi, ça joue sur le... On va dire le côté actuel du Napoli qui sont maintenant à 2 victoires et 3 nuls, donc dans une forme où pour l'instant il y a pas eu de défaite. Donc ça prouve quand même, et en plus une victoire comme tu l'as dit face à la Juve et 6-1 face à Sassuolo. Donc il y a une sorte de maintenant de réautomatisme qui commence à se mettre, et avec l'entraîneur qui a aussi pu mettre quelque chose en place dans le calme. Certes, c'est temporaire, mais justement, ça permet aussi au Napoli de se rafraîchir, de se remettre, on va dire, sur des bases qui semblaient peut-être un peu floues au départ. Et maintenant, ça va être un gros enjeu, parce qu'on est face à une équipe qui est limite comme un taureau qui veut juste voir la ligne d'arrivée rouge et qui fonce sans arrêt. Donc ça va être un gros gros challenge en tout cas pour le Napoli actuel.
Alors, ce qui va être important sur cette rencontre, ça va être de définir aussi les clés de cette rencontre, hein, ce qui va attirer notre attention, puisque on l'a dit, on a une équipe qui est un taureau et qui va foncer très probablement au bout de sa cible dans quelques semaines, c'est-à-dire rapporter le Scudetto, voire plus. Pour les hommes d'Inzaghi, hein. Bon, ça après le plus, vous nous le direz quand vous écouterez ce podcast, si c'est encore le cas, ce vendredi. Mais en tout cas, on a une équipe qui est sûre de ses forces, confiante. Et de l'autre côté, on a une équipe qui commence un peu à retrouver certaines choses, certains automatismes, certains aspects qu'on a pu voir la saison dernière, notamment chez un joueur comme Kvaratskhelia. Je trouve que depuis quelques semaines, ça va un peu mieux pour le Géorgien. Est-ce que vous avez déjà coché de votre côté, les gars, des clés sur cette rencontre, des points sur lesquels on va devoir être attentif pendant ce Inter-Napoli? Par exemple, de ton côté, Tony, pour toi, quelle sera la clé du match? Et qu'est-ce qu'on va devoir regarder en priorité?
Bah déjà, la mise en confiance du Napoli, parce que on va pas encore redire sur les mêmes choses, mais on est sur 5 matchs avec aucune défaite, une attaque qui commence à reprendre forme à domicile, ça commence à redevenir sérieux. Donc, va falloir aussi prendre cet aspect-là parce que le stade et le public fait tout aussi pour un match. Enfin, fait tout, donne un extra en plus pour les joueurs dans la motivation, dans la façon de jouer, dans le moment de développer un jeu. Et c'est là où je vais prendre le ton dans cette équipe, c'est qu'il y aura un stade Diego Maradona qui va être totalement en feu, en complémentarité avec cette équipe qui va vouloir pousser, 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 pousser face à une équipe de l'Inter qui va être très, 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 très difficile à aller chercher, à essayer de les faire concéder un but. Donc, il y aura ce côté-là. Et côté Inter, bah, en fait, ça va être limite la même chose que j'avais dit une fois lors du match de préparation Inter-Juve. Ça va être en fait déjà le caractère de cette équipe qui est totalement démesuré. C'est impressionnant. Et aussi un milieu, mais qui performe et qui est aussi une colonne vertébrale qui pour moi est vraiment, j'ai envie de dire, limite très 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 difficile à aller chercher, à déjouer. Et ça va être ça des deux côtés qui pour moi va être l'issue pour l'un ou pour l'autre.
Alors toi, de ton côté, Alban, est-ce que tu as déjà coché d'autres choses dans cette rencontre, notamment côté interiste, puisque on te sait, ton cœur penche du côté Nerazzurri. Voilà, on va pas se mentir, on va pas se mentir, mon cher Alban. Tu es encarté, tu es encarté côté interiste. Mais est-ce que tu as pu, voilà, toi, de ton côté, un peu cibler aussi des choses qu'on aurait pu voir, enfin qu'on pourrait voir ce week-end du côté napolitain?
Eh ben, déjà par rapport à ce week-end, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Tony, puisque le Maradona ne sera pas en feu ce week-end, puisque l'Inter joue à domicile.
Tout à
Donc,
fait.
je ne doute pas que la ville de Naples sera à fond comme d'habitude derrière ses joueurs. Mais le match se déroulera au Giuseppe Meazza, là aussi où il y aura une très très belle ambiance. Et ce depuis le début de saison avec une grosse affluence. On sait en plus hein, comment ça se passe, toujours les gros matchs entre les équipes du nord de l'Italie qui reçoivent les Napolitains. Donc ça va être un premier point qui va être intéressant. Ce que moi j'ai relevé en termes de clé du match, c'est d'abord un point de vue mental. Qui est du côté de l'orgueil. On a des Napolitains qui sont les champions en titre, qui le savent déjà, vont devoir laisser leur couronne pour cette saison. Mais je pense que d'un point de vue de l'orgueil, ce serait toujours bien d'essayer de pourquoi pas taper l'équipe qui va finir probablement championne en fin de saison. Je pense que ça a été un supplément d'âme qui les a animés face à la Juve, même si des Napoli Juve sont encore plus forts, je pense, que des Napoli Inter. Mais ce côté orgueil, il va falloir que les Napolitains l'aient pour essayer de répondre présent, notamment sur la dimension physique dans les duels, l'agressivité, pour essayer de se sublimer sur ce match du dimanche soir. Et le côté orgueilleux, il est également pour les interistes, puisque les interistes ont longtemps gardé la saison dernière un possible espoir comme quoi les Napolitains n'allaient pas battre les 19 autres équipes du championnat pour être championne. Et ça a été raté dans les ultimes journées, puisque les Napolitains ont battu les interistes. Donc je pense que voilà, en termes de rouleau compresseur, pour essayer vraiment d'assouvir un petit peu la domination Nerazzurri sur cette saison, ce serait quelque chose de fort, encore une fois, de réaliser une grosse performance et un gros résultat à domicile face aux champions sortants. Et puis d'un point de vue un peu plus tactique, je pense que le match face au Barça des Napolitains a pu montrer quelques limites. Il va falloir que les Napolitains soient un peu plus costaud, un peu plus resserré, un peu plus solide, je pense, d'un point de vue défensif, et pas laisser trop l'Inter s'ouvrir, se voir ouvrir beaucoup beaucoup d'espace. Et puis bah évidemment à l'inverse, les interistes ont tout intérêt pour essayer de déséquilibrer ce gros bloc à assouvir des transitions très rapidement avec des changements d'ailes et des joueurs qui permettent de le faire, pour déséquilibrer ce bloc. Donc ça va être intéressant. Je pense que l'Inter va prendre les commandes de la rencontre, et pour se faciliter la rencontre, une ouverture du score rapide serait la bienvenue.
Alors, t'as parlé d'une notion intéressante, je vais rebondir dessus, et puis je vais
Moi aussi, je vais rebondir dessus, parce que franchement, mais quelle erreur de ma part! Non, mais franchement, mais tel gros, mais avec pas, t'as tellement raison, Alban, et je sais même pas pourquoi en plus, hein. Franchement, mon cerveau, il m'a fait un bug, j'étais tellement persuadé que c'était, on était sur du Naples-Inter, mais oui, forcément. Non, mais, je préfère le dire, franchement, honnêtement, hein, gros,
Non,
mais
mais
pas de ma part.
l'erreur est turinoise. Voilà.
Ah bah là, de toute façon, oui, là-dessus, je peux même pas démentir grand-chose, hein, parce que c'est vraiment le thème de l'équipe, hein, l'erreur. Donc franchement, on va dire ça là-dessus. Donc voilà. Ah,
je voulais revenir rapidement sur un mot qu'a prononcé Alban, c'est le mot orgueil. Est-ce que tu es plutôt d'accord, toi, Tony, avec ça? Est-ce que les deux équipes vont devoir faire preuve d'orgueil sur cette rencontre pour pouvoir espérer l'emporter?
Ah bah oui, bah d'un côté l'Inter, d'un côté, c'est même si c'est un Naples qui est en difficulté cette saison, ça reste quand même l'équipe du Napoli. Donc il y a quand même aussi cette domination à mettre dans tout le championnat, et ça doit aussi passer par le Napoli. Et du côté orgueil Napoli, bah d'un côté t'as une saison qui commence, on va dire, à reprendre des points, etc. Donc il y a aussi, on va dire, une sorte de pas confirmation à 100%, mais dans cet état d'esprit de se dire que voilà où est-ce qu'on en est, et maintenant à nous de voir ce qu'on est capable de faire face à une telle équipe comme l'Inter.
Alors, avant de passer un petit édito qui a pour autre sujet que ce match, est-ce que vous pourriez me donner un pronostic, messieurs, sur cette rencontre entre l'Inter et le Napoli? On va commencer avec toi, Tony.
Bah écoutez, moi je vais prendre le même score que ce qui s'est passé face au Barça pour le Napoli qui s'est passé du coup mardi. Je vais dire 3-1 pour l'Inter.
3-1 Inter. Alban, de ton côté, est-ce qu'on est plutôt sur un 3-1 Inter ou est-ce qu'on est sur peut-être un peu plus mesuré?
Ah bah moi je suis toujours très mesuré, hein. De toute façon c'est soit nul soit un but d'écart en général, donc
Oh, mais
je vais
lâche-toi,
pas
Alban,
faillir
lâche-toi.
non, je vais pas faillir à ma règle simple qui fonctionne depuis le début de saison, mais je vais partir sur une victoire de l'Inter 2-1. Je pense avec une première mi-temps où on va mettre beaucoup d'intensité, pourquoi pas breaker dès la première mi-temps. Et après, peut-être la dimension physique peut jouer des tours au Nerazzurri qui joue donc le mercredi en Ligue des Champions alors que les Napolitains ont joué mardi. Pourquoi pas, ça pourrait peser potentiellement sur la fin de rencontre ou la deuxième mi-temps. Mais je pense que ouais, les Interistes vont avoir le sérieux. Et puis peu importe, voilà, le résultat en Ligue des Champions, on ne le connaît pas encore, mais qu'il y ait une qualification, bah justement l'Inter va vouloir continuer sur cette dynamique de victoire. Donc ils vont aborder le match toujours de manière très sérieuse et très très offensive. Et puis si jamais il y a élimination, je pense que bah, voilà, entre guillemets, la vengeance qui va devoir se présenter et quoi de mieux qu'un gros morceau pour justement la déclencher.
Très bien, messieurs, c'est noté pour vos pronostics. Ça sera vérifié ce week-end, le 17 mars, donc ce dimanche, un peu plus tard dans la journée. Avant de se quitter, messieurs, petit édito quand même, parce qu'il y a eu de l'actu en Serie A, notamment avec deux démissions, enfin deux chamboulements en termes d'entraîneurs du côté de Lecce et de la Lazio, notamment, voilà. Parlait beaucoup depuis quelques semaines, Maurizio Sarri, depuis de voilà, ça va pas du tout hein, côté Lazio, hein, malgré il y a eu un petit sursaut en Ligue des Champions avec une victoire au match aller face au Bayern, mais ça a été compliqué hein, pour la Lazio ces dernières semaines, qui bah du coup se sépare de son entraîneur après je crois 1 an et demi, 2 ans à la tête de la Lazio.
Oui, il t'arrive en été 2021, je crois.
Donc 2 ans et demi, du coup, 2 ans et demi. Aussi de son côté, on a, je crois, donc je l'ai dit, l'entraîneur de Lecce qui était Roberto D'Aversa, qui s'est fait déjà suspendre pour un coup de boule sur un joueur de l'Hellas Vérone, et puis bah qui a tout simplement ensuite été limogé le jour d'après par son club suite à ce coup de sang. Bon, ça a donné une bonne excuse à Lecce pour le renvoyer, hein, puisque Lecce est tout simplement dans une situation très compliquée en championnat, à un point de la zone de relégation qui est occupée par Frosinone et la 18e place. Voilà, un petit mot les gars sur ces deux chamboulements du côté de la Dialé et du côté de Lecce, Tony. Pas inattendu, disons.
Pas inattendu. Pour commencer avec Roberto D'Aversa, moi, honnêtement, ce coach, je le connais que en fait depuis la montée, la montée de Parme en Serie A. C'était lui qui coachait Parme et il avait fait du très bon boulot d'ailleurs parce qu'il a maintenu Parme deux saisons en Serie A. Pour un promu, c'est déjà à noter. Après, il y a eu une séparation pour quelques, on va dire, problèmes d'objectifs. En tout cas, c'est dont je m'en rappelle. Ensuite, il a été un peu parti dans quelques clubs et je pensais justement que en le revoyant à Lecce, il allait pouvoir du coup continuer en fait ce qu'il a laissé de côté de Parme et ça avait plutôt donné de bonnes choses, hein, faut quand même le dire. Mais effectivement, au bout d'un moment, il y a eu du coup quelque chose qui s'est quand même fragilisé. On voyait que Lecce c'était plus non plus trop ça dans leur match. Et un truc que j'aimerais bien mettre en avant, c'est quand même le geste, mais tellement pas du tout exemplaire de la part d'un entraîneur envers ses joueurs. Enfin, mettre un coup de boule sur un joueur adverse, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais normalement, t'es entraîneur, tu poses l'exemple à tes joueurs. Normalement, c'est l'entraîneur qui calme les joueurs si jamais il y a des confusions pendant le match. Normalement, c'est lui qui intervient pour calmer les choses. Et là, mais il a totalement vrillé. Bon, on n'a pas non plus le motif là-dessus, mais tout motif ne doit pas montrer un tel geste. Et ça, du coup, forcément, Lecce qui était plutôt, on va dire, parti à le garder jusqu'à la fin de la saison et d'en rediscuter cet été, comme tu l'as dit, ça a été, on va dire, la raison, le motif, et d'ailleurs, en plus, quel grand motif, de pouvoir finir totalement son contrat pour une faute quand même très grave.
Tout à fait, ouais, ça ternit un petit peu son passage, hein, du côté de Lecce à
Aversa. Et c'est dommage parce que très clairement, c'est un coach qui a des très bonnes qualités. Et le voir partir comme ça, je pense que très clairement, c'est quand même un gros coup déjà pour lui dans, on va dire, dans son implication en tant qu'entraîneur.
Alban, toi, de ton côté, un petit mot sur le départ de ces deux entraîneurs.
Pour Lecce, je veux pas trop développer parce que c'est vrai que voilà, il fallait quand même en parler parce que Lecce réalisait un très bon début de saison, c'était une agréable surprise, on va dire. Et là, depuis 2024, ils ont qu'une seule victoire au compteur, ils pointent à 16e place. Donc au niveau de l'attitude de l'entraîneur et de tout ce qui a pu se passer récemment, je pense que c'est un bien pour un mal et j'espère que ça va apporter du positif du côté de Lecce, même si comme l'a dit Tony, au niveau du geste pour un coach, c'est absolument pas, enfin pour tout le monde, hein, mais encore plus pour un coach dans la hiérarchie du football, je trouve que c'est terrible d'avoir vu ça. Et puis concernant Sarri, je trouve que c'est une sage décision de sa part d'avoir posé sa démission. Je pense que il a vu que il pouvait tout simplement pas faire mieux, pas tirer plus de ce groupe. Il y a eu certaines belles choses, hein, notamment la saison dernière évidemment, mais il a pas réussi à apporter de la continuité et c'est dommage parce que quand tu connais le potentiel d'une équipe, que t'apportes quelques bonnes plus-values et que au final tu fais moins bien, forcément ça fait un peu plus grincer des dents les tifosi, donc je pense que c'était plutôt le bon moment pour partir. Maintenant, hâte de voir la décision que va prendre la Lazio, à savoir s'ils vont partir directement avec un nouveau coach ou si ça va partir avec un coach intérimaire sur une courte période. Moi j'avoue que je suis pas trop fan de ça, mais
ça parle du gantou,
avoir en tout cas. Ouais, mais ce serait plus pour la saison prochaine. Donc moi, je préfère, si on veut avoir un coach sur plusieurs saisons, autant qu'il vienne le plus rapidement possible. Tu finis la saison entre guillemets en roue libre, tu essayes de faire au mieux, mais ça permet au coach d'avoir déjà sa prévision et ses ambitions et ses idées sur la saison prochaine, alors que s'il arrive au mois de juin, juillet, bah, il a moins de temps. Et je vais pas ressortir un sketch de Thierry Henry avec une histoire de temps pour dire à quel point c'est important. Donc voilà, j'espère que les Lazio les prendront la bonne décision pour le futur du club, puisque bah, avec l'élimination en Ligue des Champions, bah, la saison fait un petit peu moins rêver encore aujourd'hui. Donc, à voir ce qu'il en dit.
En tout cas, on en connaît un. Oui, vas-y, Tony, vas-y.
En plus, enfin, honnêtement, sur le CV, quand j'avais vu que la Lazio était sur Sarri et qu'il y avait vraiment plus un contact positif et que ça s'est fait, pour moi, en tout cas, le casting n'était pas dégueu. C'est le seul bémol qui peut-être aurait pu flancher, alors qu'il a quand même fait, dans la globalité des attentes de la Lazio, il a fait des bonnes saisons, mais c'est vrai que il y a eu quand même. Et c'est là que je dis quand même bravo à l'Inter sur ce côté-là, parce qu'elle a su quand même compter qui jouait en 3-5-2. Bah, elle a pris un coach qui jouait en 3-5-2 aussi, qui est Inzaghi. La Lazio, bah forcément, Inzaghi jouait en 3-5-2 aussi, et passe avec Sarri qui jouait en 4-3-3. Donc il y avait quand même un long processus de changement de système, et pourtant on savait, quand Sarri a repris le Napoli, ça a pris son temps, mais après c'est devenu une équipe qui a été totalement dangereuse vraiment à tout moment. Et c'est dommage que ça n'a pas pris cette sauce, parce que je pense qu'honnêtement, si vraiment la sauce avait bien pris, je pense qu'on aurait vu une Lazio qui se battrait facilement pour chaque année pour la deux, voire même troisième place.
En tout cas, si Tudor venait arriver du côté de la Lazio, Tony, je pense qu'on en connaît un qui serait heureux de
Ah
se
bah oui,
trouver.
bah non. Non mais tu sais qu'en soi, tu poses les bases, tu te dis Tudor, parce que c'est lui que forcément on parle quand on dit qu'un coach va venir, et le joueur en question, Guendouzi. Faut savoir que c'est vrai que lors de la deuxième saison de l'OM l'année dernière, quand Tudor était là, il faisait énormément moins jouer Guendouzi, enfin en tant que titulaire, mais il le faisait, on va dire, rentrer pour genre 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a un qui va se dire, si la Lazio me rachète et qu'il y a Tudor qui est là, va falloir que je me redémarque ou pas. Et est-ce que ça peut être aussi un. Alors, on est un peu sur du limite hors sujet, mais c'est vraiment très rapide. Est-ce que du coup, ça sera pas du coup un motif de dire que Guendouzi reviendra à l'OM? Ça sera quelque chose.
Ah, bah ça après, faudrait une qualification avec des champions déjà pour ça du côté marseillais. Et
C'est
ça,
ça.
c'est pas fait. Merci les gars de m'avoir accompagné sur cette preview série, hein, toujours un plaisir
Alors, Quentin,
d'enregistrer. Oui.
un dernier petit truc, parce que Alban et moi, on s'est mouillé, mais toi, tu t'es pas très mouillé.
Vous
On veut ton
m'emmerdez.
prono, Quentin.
Ah bon, allez. Pour ce Inter-Napoli, ça sera une victoire 3 buts à 1 de l'Inter. Avec, je pense quand même pas mal de facilité sur cette rencontre pour les Interistes, à mon avis.
Donc, bon, on est d'accord, on a un petit pronostic en commun, c'est plutôt
Oui, voilà.
réjouissant.
Non, mais je pense que ouais, ça paraît assez cohérent avec les formes du moment. Voilà. Je peux conclure maintenant, Tony? J'ai le droit?
Oui, pardon, je t'en
Pas de
prie.
problème. Merci. Donc, merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cet épisode Serie A. Vous aurez bien sûr la Liga, la Bundes et un épisode un peu spécial sur la Première Ligue, puisqu'il n'y a pas grand-chose ce week-end en raison de FA Cup. Donc, on proposera un épisode un peu spécial hein, sur la Première Ligue ce week-end en guise de preview. Voilà. Bah, écoutez, on se dit à très bientôt. À très bientôt, puisqu'il y a il y a le décrassage d'avant-trêve qui sera ce lundi sur vos plateformes de streaming préférées. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.